retrouve maintenant la rubrique Panorama, une rubrique consacrée aujourd'hui à la seconde partie de l'entretien avec Stanislas Pierret, actuellement directeur de l'Institut français de Bucarest, mais qui nous a raconté comment, au tout début de sa carrière diplomatique, il s'était intégré dans les réseaux dissidents tchécoslovaques. Stanislas Pierret continue donc de nous exposer son parcours professionnel en commençant par les événements de 1989 à Prague. Stanislas Pierret est au micro d'Anne Clairveluire.
Panorama.
Panorama.
Est-ce que vous étiez à Prague lors des événements de 89 ou comment
alors,
vous avez suivi
les événements? C'est très intéressant parce que j'avais quitté Prague, j'avais quitté la République tchèque. C'était en janvier ou en février. Et j'étais allé à Belle-Île, j'avais loué une petite jardinerie pour faire de la peinture. Et donc je voulais me mettre vraiment à la peinture pendant 6 mois, faire que ça, etc. J'ai beaucoup peint pendant quelques mois. Je suis revenu à Paris. Et quand, c'était en octobre, les premiers événements sont arrivés à Prague, c'est la mort de Schmitt qui a été annoncée par Peter Hull, j'ai pris mon téléphone, je suis rentré, j'ai appelé un ami tchèque, je lui ai dit que je viendrai. Et le lendemain, j'étais à Paris, je voyais Amalric, qui était à l'époque directeur des pages du Monde, des pages du Monde étrangers, et je lui ai vraiment fait un coup, alors vraiment au culot, je lui ai dit, écoutez, je suis l'homme de la situation, il faut absolument que je parte là-bas. C'est en train de... Les choses sont en train d'arriver. Comprenez, j'ai passé 2 ans là-bas, je suis l'homme de la situation, je parle tchèque, je ne parle pas très très bien le tchèque, mais je me débrouille. Je peux partir comme correspondant pour le Monde. Et le père Amalric, finalement m'a fait confiance. C'est-à-dire qu'il m'a dit, écoutez, j'ai pas beaucoup d'argent, mais je peux vous payer votre billet de train. Il m'a payé mon billet de train, qui était à l'époque, je me souviens, 900 francs. C'était 900 francs. Il m'a donné 900 francs. Et donc, j'ai acheté mon billet de train. Et la ville était fermée quand même, La ville était fermée. C'était vraiment le tout début de la révolution. Et Amalric m'a fait confiance, donc j'ai pu partir et accueillir Sylvie Goffman, qui, elle, a couvert. Sylvie Goffman, donc correspondante du Monde à cette époque pour toute l'Europe centrale, elle a pu couvrir toute la révolution. Donc j'ai fait deux papiers. J'ai fait un papier sur les étudiants, je me souviens d'un papier qui est passé en première page, donc bien sûr mes parents étaient très fiers, etc., sur la révolution de velours, sur la révolution des étudiants. Voilà. C'était le début un peu, et donc je suis resté un mois à Prague, donc j'étais un petit peu spectateur engagé. J'allais régulièrement au siège d'Obchinsky Forum, du Forum civique, et donc là j'ai revu des copains dissidents, etc., qui m'ont demandé de les accompagner en province pour un peu rassurer la population, parce qu'à l'époque, vraiment, il y avait Prague et la province. L'information était pas claire du tout. Et je veux dire que il y avait pas mal de désinformations sur Prague. Donc on est allé parler en fait aux ouvriers. J'ai fait des harangues comme ça devant des ouvriers en tchèque plusieurs fois. Je suis parti avec des acteurs, avec des intellectuels, avec des gens de la charte, donc parler un petit peu aux gens en province et les rassurer un peu sur ce qui se passait à Prague, parce que finalement la vie était relativement tranquille. Je suis resté un mois là, c'est quand même intéressant ça. Un épisode intéressant. L'ambassadeur de Jour Humain, il m'avait réuni, je me souviens, Yannakakis, Glucksmann, je crois que Glucksmann et plusieurs intellectuels. Et en fait, la grande question était de savoir qui allait, bien sûr, succéder, comment dirais-je, au Yakesh et compagnie. Et bien sûr, les chancelleries parlaient à l'époque, c'était au mois d'octobre, parlaient du retour de Bjek. Et j'avais assisté, moi, sur l'esplanade, donc à la fameux retour de Dubček. Et c'était assez extraordinaire, parce que, en fait, là j'ai compris qu'il ne serait jamais président.
Pourquoi ?
Parce qu'il avait un discours qui n'était plus en phase avec. Il parlait de Zlata Praha, il avait des images. Complètement obsolète. et qui ne correspondait pas vraiment à, que les pas en fait au mouvement et au mouvement qui était en train de d'émerger. Et bien sûr, certains intellectuels commençaient déjà à lancer le nom de Václav Havel. Quand on m'a interrogé, puisque j'étais convoqué un jour par l'ambassadeur Humann, et devant Don Buxman, et j'ai dit, mais non, je pense que vous vous trompez, ça ne sera pas Dobšek, ce sera Havel. Donc c'était 2 mois avant l'élection de Havel, et voilà, donc c'était un peu mon heure de gloire. J'avais un peu anticipé les choses. Maintenant, bon, c'est vrai que Dubček est un homme âgé, un homme sans doute vénéré, respecté, mais plus en phase du tout avec la société des années de la fin des années 80.
Vous avez exercé la fonction de directeur de l'Institut français de Prague et vous êtes aujourd'hui directeur de l'Institut français de Bucarest. Alors, comment vous pouvez un petit peu comparer les deux expériences que vous avez eues à ce poste ?
Alors, d'abord, donc après la révolution de velours, je séjournais à Prague pendant un mois et demi. J'ai fait un peu le tour du pays, justement pour parler un peu aux gens, etc. Et ensuite, je suis rentré en France. Et le maire de Paris de l'époque, Jacques Chirac, pour ne pas le nommer, voulait monter une fondation avec son épouse en direction des jeunes des pays justement libérés du communisme, des pays... Et j'ai été choisi par Madame Chirac pour en fait monter cette association contre l'avis d'ailleurs des gens du cabinet qui voulaient nommer à ce poste un vieil ambassadeur, etc. Donc Madame Chirac m'a fait confiance. Alors que je n'étais pas du tout encarté, je n'étais pas encarté au RPR, etc. M'a fait confiance et donc j'ai pu monter cette association Le Pont Neuf. J'ai pu m'en occuper pendant 7 ans. On a travaillé avec tous les pays d'Europe centrale, avec la Russie. Quand le système s'est libéralisé en 93, et puis aussi un peu dans les pays des Balkans, au moment de la guerre en Bosnie. Alors, on a fait pas mal de choses, on a organisé des expositions d'artistes pendant la guerre. D'ailleurs, Mme Chirac n'était pas trop pour, d'ailleurs, mais bon, on avait réussi quand même à faire des choses intéressantes à ce moment-là. Grâce à l'armée, je me souviens, c'était des avions, des Hercules qui acheminaient les œuvres des artistes bosniaques de Sarajevo. Voilà. Et donc après ça, le maire de Paris accède à la magistrature suprême, devient président de la République, et voilà, je pose la question de confiance à Mme Chirac, je lui demande si elle veut transformer son association en grosse fondation. Et elle me répond qu'elle n'est pas Daniel Mitterrand, qu'elle ne veut pas créer, une fondation type, France Liberté. Et donc on me nomme directeur d'institut à Prague. Voilà, directeur d'institut et conseiller culturel. Donc je reviens à Prague comme conseiller culturel. Alors bien sûr, les portes s'ouvrent, j'ai énormément de contacts avec tout le monde. Ça a été passionnant, c'était très intéressant parce qu'il y avait énormément de choses à faire dans tous les domaines, hein, dans le domaine culturel, mais aussi dans le domaine de la gouvernance, énormément de choses. Je rempile à Budapest. Là, je me mets au Hongrois, je passe 4 ans à Budapest dans les mêmes fonctions, et ensuite je pars pour la Turquie. J'occupe aussi les mêmes fonctions de directeur d'institut et de conseiller culturel, un moment extrêmement compliqué, puisque bon, la relation, avec les Turcs se complique, changement de président de la République. Voilà, et donc après ma mission en Turquie, eh bien je m'occupe de la saison de la Turquie en France, qui n'a pas été non plus une mission très facile. Voilà, compte tenu du climat politique tendu de l'époque. Et après la saison de la Turquie, eh bien le ministère décide de m'envoyer en Roumanie. Donc si vous voulez, c'est assez cohérent comme parcours. Hein, c'est assez cohérent. Il me restait... je connaissais bien l'Europe centrale, je connais assez bien la Turquie et la Russie. Il me manquait en fait cet état... Non, d'Europe orientale, qui est extrêmement intéressant, qui est un état extrêmement, extrêmement riche. Quoi, les paysages sont magnifiques, et surtout, c'est un pays qui est extrêmement, extrêmement divers. Vous avez, c'est une mosaïque de peuples, la Roumanie. Vous avez des Roumains, bien sûr, mais vous avez une minorité hongroise importante, vous avez une minorité russe de Lipovène dans le tas de la Danube, vous avez des Tchèques dans le Banat, vous avez des Slovaques dans le Banat, vous avez donc, je peux parler de toutes les langues dans ce pays que j'ai apprises au fur et à mesure de mes pérégrinations. Et en fait, cette espèce de. C'est le pays qui manquait, quoi, pour vraiment. Pour finir le puzzle, si vous voulez. Donc c'est un pays extraordinaire.